Vous écoutez Radio France Internationale, 1h ici à Paris, minuit en temps universel.
Gali Bonin.
En Géorgie, c'est une entrée en fonction sous haute tension. Le président désigné pro-russe s'apprête à être investi, mais il fait face à des foules de manifestants qui s'opposent à sa nomination. Vous les entendrez dans ce journal. Des guerres de plus en plus nombreuses, aux effets dévastateurs pour les enfants. Selon un rapport de l'UNICEF, c'est un enfant sur six dans le monde qui vivrait dans une zone de conflit. En Turquie, c'est une première en 10 ans. Le parti pro-kurde du pays a été autorisé à rendre visite à Abdullah Öcalan. Emprisonné depuis 1999, c'est le père spirituel du mouvement indépendantiste kurde. Et aux États-Unis, Donald Trump veut avoir son mot à dire sur l'interdiction de TikTok. Le président élu a demandé à la Cour suprême de suspendre la loi qui prévoit bannir l'application du seul américain. Nouvelle journée de manifestation en Géorgie. La présidente sortante pro-européenne Salomé Zourabichvili doit laisser sa place. Elle sera remplacée par Mikhail Kavelashvili, un ex-footballeur pro-russe qui a été désigné le 14 décembre. Mais cette passation se fait sur fond de tensions dans le pays. Le parti au pouvoir, Rêve géorgien, est fortement contesté. L'opposition l'accuse d'avoir volé l'élection avec l'aide de Moscou. À quelques heures de la cérémonie, notre envoyé spécial à Tbilissi, Julien Chavanne, a demandé aux manifestants devant le Parlement comment ils envisageaient la suite du mouvement.
Il est 23h passées, l'avenue Rostaïveli se vide doucement. Il reste encore quelques dizaines de manifestants, les plus motivés, comme Tatia Mekerishvili, une étudiante de 22 ans.
On n'a pas d'autre choix que de manifester. Le pouvoir ne pourra pas mentir aux gens et dire qu'ici, il n'y avait personne qui manifestait.
À côté d'elle, Kessan Babounashvili acquiesce, mais pour elle, la solution viendra des pressions internationales.
Pour l'instant, l'Union européenne est très lente à réagir, à part les pays baltes. J'espère que l'Europe va décider à son tour de nouvelles sanctions, car c'est ça qui va briser ce pouvoir. Ils ont leurs biens et leurs enfants en Europe.
31 jours de mobilisation n'ont pas fait reculer le pouvoir. Et rien n'empêchera Mikhail Kavelashvili d'être investi président. Qu'importe, Temo ne reconnaîtra jamais le nouveau chef de l'État.
Ça n'a rien d'extraordinaire ce qui se passera ce dimanche. Cette investiture n'a aucune importance, ça ne compte pas. Parce que la seule présidente légitime et élue démocratiquement, c'est Salomé Zourabichvili.
La présidente sortante qui a peut-être passé sa dernière nuit dans le palais présidentiel. Elle va dévoiler son plan pour la suite dans la matinée, 1 heure avant l'investiture de celui qui est censé lui succéder.
Le reportage à Tbilissi de notre envoyé spécial Julien Chavanne. Et l'ombre de la Russie plane aussi en Moldavie. Le pays enclavé entre l'Ukraine et la Roumanie est sous la menace d'une crise énergétique. La société d'État russe Gazprom a annoncé qu'elle cesserait de livrer du gaz à l'ex-république soviétique dès le 1er janvier. Un approvisionnement qui représente le tiers des besoins en électricité du pays de 2,5 millions d'habitants. L'entreprise évoque un différend financier avec la Moldavie qui vient de réélire une présidente pro-européenne. Le gouvernement, lui, dénonce une tactique d'oppression et accuse la Russie d'utiliser l'énergie comme une arme politique. L'Organisation mondiale de la santé s'est dit consternée par le raid israélien contre un hôpital du nord de Gaza. L'Agence des Nations Unies dénonce un démantèlement systématique du système de santé par les forces israéliennes, une méthode qui mettrait en danger la vie des 75 000 Palestiniens encore présents dans la zone. Vendredi, l'État hébreu a mené une opération terrestre contre l'hôpital Kamal Adwan dans le nord de l'enclave. L'armée a qualifié l'établissement de repère pour les combattants du Hamas. 240 personnes ont été arrêtés, dont le directeur de l'établissement, suspecté par Tel Aviv d'appartenir au mouvement islamiste. Les conflits qui se sont multipliés sur la planète cette année, elle n'épargne personne, pas même les enfants. Selon un rapport publié samedi par l'UNICEF, plus d'un enfant sur six vit maintenant dans une zone de conflit. Cette proportion a doublé depuis les années 90. Une situation qui a des conséquences graves sur leur santé et sur leur développement. Elisa Robuchon.
accès entravé aux soins, déscolarisation, malnutrition. Les enfants vivant dans des zones en conflit sont particulièrement vulnérables. Plus de 52 millions d'entre eux seraient déscolarisés. Certains peuvent rater des années scolaires, comme au Soudan ou dans la bande de Gaza. D'autres n'ont pas accès à l'apprentissage quand leurs écoles ont été détruites, par exemple. De plus en plus mal nourris, ils sont aussi plus vulnérables aux maladies comme la rougeole. Environ 40% des enfants non vaccinés ou insuffisamment vaccinés vivent dans un pays touché par un conflit. Dépression, cauchemars, troubles du sommeil, leur santé mentale est aussi atteinte, touchée par l'exposition à la violence. Une violence qu'ils fuient parfois. Ils sont 47 millions à avoir été déplacés fin 2023. Cette année, l'intensification des conflits a accru les déplacements, notamment en Haïti et au Soudan. C'est une année record. Selon l'UNICEF, les conséquences des conflits sur les enfants ont atteint des niveaux dévastateurs. Les enfants constituent 30% de la population mondiale, mais représentent environ 40% des populations réfugiées.
Elisa Robuchon. C'est une première pour le parti turc pro-kurde. En près de 10 ans, Ankara a autorisé la visite du chef historique du PKK, Abdullah Öcalan. Enfermé depuis 1999, c'est le fondateur du Parti des travailleurs du Kurdistan, formation considérée comme terroriste par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne. Mais avec la relance des négociations de paix depuis le mois d'octobre, la coalition au pouvoir multiplie les gestes envers le mouvement kurde. Cette visite sur l'île prison d'Imrali est le dernier en date, le compte-rendu de notre envoyé spécial Céline Pierre Magnani.
Ce sont deux protagonistes du précédent processus de paix, Selo Süleyya Önder et Pervin Buldan, qui ont été choisis pour cette visite hautement symbolique samedi 28 décembre. La dernière délégation du parti pro-kurde, le HDP à l'époque, s'était rendue sur l'île prison d'Imrali en 2015. Et depuis, seuls ses avocats et son frère avaient été autorisés à s'entretenir avec le chef historique du Parti des travailleurs du Kurdistan, Abdullah Öcalan. Alors que les autorités d'Ankara ont à nouveau démis des maires de leurs fonctions pour leur lien supposé avec le PKK, il fallait un geste fort pour convaincre l'opinion publique de la sincérité de la démarche. Dans la plus grande ville kurde de Turquie, Diyarbakır, les résultats d'enquête montrent que les habitants de la région sont encore méfiants. Et l'atmosphère est d'autant plus tendue que les habitants du sud-est ont les yeux rivés sur les développements dans le nord-est kurde de la Syrie. Plusieurs manifestations ont eu lieu dans les villes frontières de Suluç et Nusaybin pour exprimer la crainte d'une vaste offensive de la Turquie et des factions islamistes de l'armée nationale syrienne. Céline Pierre Magnani, Diyarbakır, RFI.
Nouveau développement dans la crise politique en Corée du Sud. Le président déchu Yoon Suk-yeol aurait autorisé l'armée à ouvrir le feu pour entrer au Parlement. Dans un document publié par le parquet sud-coréen, le chef de l'État aurait commandé aux militaires de casser les portes de l'Assemblée et je cite « même si ça veut dire qu'il faut tirer ». Le 3 décembre dernier, Yoon Suk-yeol a proclamé la loi martiale à la surprise générale, une décision aussitôt révoquée par un vote des parlementaires qui a plongé le pays dans le chaos politique actuel. Direction les États-Unis où Donald Trump s'invite dans la bataille autour de TikTok. Le président élu a demandé à la Cour suprême de suspendre la loi qui menace d'interdire l'application si sa maison mère chinoise ne la revend pas avant le 19 janvier. Une manière, Hashim Leipold, de gagner du temps afin de pouvoir gérer le dossier lui-même une fois à la Maison Blanche.
Dans une lettre adressée au juge de la Cour suprême, les avocats de Donald Trump précisent que leur client ne prend pas position sur le fond du dossier. Ils cherchent avant tout à éviter la fermeture de TikTok qui revendique 170 millions d'utilisateurs aux États-Unis. Les avocats mettent en avant l'expérience de Donald Trump en tant que négociateur. Selon eux, le président élu sera le mieux placé pour trouver un compromis qui répond aux inquiétudes sur la sécurité nationale tout en sauvant l'application. En avril dernier, le Congrès a massivement voté une loi qui oblige la maison mère de TikTok, ByteDance, à vendre ses activités américaines avant le 19 janvier, sous peine d'interdiction. Comme le Congrès, l'administration Biden veut prévenir les risques d'espionnage et craint que le gouvernement chinois n'accède aux données des utilisateurs de la plateforme. TikTok dénonce de son côté une attaque contre la liberté d'expression. Ironie de l'histoire, lorsque Donald Trump était à la Maison-Blanche, il avait tenté d'interdire l'application. Aujourd'hui, le président élu en reconnaît l'utilité et y voit une alternative aux géants comme Facebook qu'il avait banni après l'assaut du Capitole en janvier 2021.
Les précisions d'Hachim Lippold. Au Royaume-Uni, des centaines d'avions cloués au sol en raison d'un épais brouillard. À quelques jours du Nouvel An, le trafic aérien est fortement perturbé, des centaines de vols sont retardés et plusieurs ont été annulés. Les aéroports les plus touchés sont ceux de Gatwick et Heathrow à Londres. Ce sont également les plus fréquentés du pays.